Il y a 20 ans, au moment de leur introduction sur le marché agricole, les organismes génétiquement modifiés, les OGM, avaient pour ambition de mettre un terme à la faim dans le monde. 20 ans après, le monde a toujours faim et les OGM n'ont cessé de susciter crainte et interdiction. S'ils représentent aujourd'hui 13% des surfaces cultivables mondiales, pour la première fois, les surfaces plantées OGM ont reculé d'un petit pourcent. La révolution agronomique promise n'a pas eu lieu et des nouvelles techniques d'édition génomique sont en plein développement. Bref, est-ce le début de la fin des OGM ? La fin des OGM est-elle pour demain ? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour dresser ce bilan et analyser les perspectives tant en matière de nouvelles techniques d'édition génétique qu'en agriculture écologiquement intensive, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Agnès Ricroc. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante chercheuse en génétique et amélioration des plantes à AgroParisTech et à l'Université Paris-Sud. Vous êtes présidente de la section sciences de la vie, à l'Académie d'agriculture de France. Vous êtes également professeure associée à Pennsylvania University. Bonjour Michel Griffon.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur agronome et économiste. À paraître le 7 septembre prochain à la rentrée, l'écologie intensive chez Buchet-Chastel, un livre qui est préfacé par Éric Orsenna. Vous pouvez suivre comme chaque jour cette émission en direct sur notre fil Twitter @laméthodefc. Alors, pour commencer, eh bien, je le disais à l'instant, l'ambition initiale de la recherche sur les OGM depuis la découverte du transfert de gènes par agrobactéries à la fin des années 70 jusqu'à leur mise sur le marché, la mise sur le marché des premières semences OGM, c'était il y a quasiment 20 ans, un tout petit peu plus. Cette ambition initiale, c'était tout bonnement, et c'est une belle ambition, de nourrir la planète, d'augmenter les rendements, de faire face aux défis de l'accroissement de la population mondiale. Quel bilan tirer 20 ans après de cette ambition, selon vous, Agnès Ricroc ?
Tout d'abord, je voudrais faire une petite rectification parce que les chiffres de 2016 des surfaces des plantes génétiquement modifiées enregistrent une augmentation de 3,5% par rapport à 2015.
2015, c'était la réduction d'1% que j'évoquais dans l'introduction.
Voilà, absolument, qui sont liées à des rotations et puis aussi liées à des prix qui fluctuent pour le maïs et le soja. Et on atteint en 2015 185 millions d'hectares. Ce qui est à peu près l'équivalent de 10 fois la surface de la France, soit 13,5% des terres agricoles sur la planète. Ça représente 18 millions d'agriculteurs, soit plus de 30 fois le nombre d'agriculteurs français. Et en gros, il y a 7 millions de Chinois et à peu près 8 millions d'Indiens. Donc, c'est surtout des pays en voie de développement qui plantent ça. Il y a une plus grande diversité de plantes génétiquement modifiées depuis les 20 ans du début. L'invention relève de fin des années 70, début des années 80.
On y reviendra brièvement tout à l'heure.
Donc, il y a une plus grande diversité de plantes, une plus grande diversité de caractères. On sort un peu de l'éternelle résistance à un herbicide ou résistance à un insecte, mais aussi à d'autres ravageurs. Et on va vers des caractéristiques qui intéressent davantage le consommateur, comme la qualité des produits et notamment l'enrichissement en vitamines chez le riz. Donc, il y a une disparité entre les pays, donc le bilan il est mitigé. En Europe, comme vous le savez, il y a un frein politique qui s'accompagne de violence, de vandalisme, de sorte qu'il y a des pays qui ne peuvent plus faire des plantes génétiquement modifiées.
C'est le cas en France.
On a le droit de
travailler, la recherche a le droit de travailler sur des organismes
génétiquement
modifiés, mais on a plus le droit de planter.
Oui, encore que la recherche française a énormément régressé alors que elle était très innovante dans les années 90 face effectivement au vandalisme et aussi au harcèlement hein, que sont victimes certains chercheurs, et puis le fait qu'ils ne soient pas poussés non plus par des moyens financiers à innover. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la Grande-Bretagne.
Alors, on voit bien, et c'est toujours un peu le nœud gordien de ce débat autour des OGM, qui a suscité, comme vous venez de le signifier, Agnès Ricroc, beaucoup de passion, notamment en France. On va faire un bilan raisonné de cette efficacité, et en tout cas de ces 20 ans de plantage et de recherche en matière d'OGM. Et j'aimerais l'avis de Michel Griffon sur cette question. Effectivement, léger recul des surfaces plantées en 2015, légère augmentation en 2016, en tout cas par rapport à l'augmentation des débuts qui a été foudroyante, qui a été fulgurante. Hein, les surfaces plantées sont mises à augmenter de manière exponentielle au début. Là, on arrive à une sorte de plafond de stabilisation. Est-ce que ça veut dire, encore une fois, je vous repose la question, que les OGM n'ont pas apporté toutes les promesses qui étaient celles du départ ?
Oh, franchement, c'est très difficile de répondre. Sauf que, oui, il y a toujours des promesses qui sont un peu extravagantes pour toute innovation. On a toujours tendance à considérer qu'une innovation va être la réponse à toutes les questions, à tous les problèmes qu'on va rencontrer. Et c'est un défaut des agronomes, quelquefois des chercheurs. Donc de ce point de vue, on a nourri, bien sûr, trop d'espérance. Mais surtout, on a mis les OGM tous dans le même panier, alors que chacun est très spécifique, et chacun a une histoire, chacun peut faire l'objet d'un débat qui est spécifique. Et quand on fait la liste des questions, la liste des débats, on se rend compte que certaines questions sont pertinentes pour certains OGM et d'autres sont sans intérêt. Alors, dans les conversations habituelles, on dit les OGM et on se pose la question de l'utilité des OGM, alors qu'il faudrait prendre au cas par cas et avec discernement, ce que l'on ne fait jamais.
Alors le discernement, c'est ce qui va conduire notre réflexion commune au cours de cette heure. J'aimerais qu'on retrace, hein, je le disais à l'instant, assez rapidement ce qu'est un OGM, un organisme génétiquement modifié, et puis faire les distinguos que vous venez d'évoquer, Michel Griffon, parce que sélectionner des plantes, améliorer leur rendement, faire en sorte qu'ils résistent mieux aux agressions extérieures, c'est quelque chose qui ne date pas de la recherche agronomique des 70, c'est quelque chose qui date depuis des débuts de l'agriculture, Agnès Ricroc.
Oui, bon, l'OGM, organisme génétiquement modifié, en fait, c'est un objet juridique hein, qui est inventé par la Commission européenne dans les années 90 avec la fameuse directive 2018 qui a été rénovée. Dans d'autres pays comme aux États-Unis, au Canada, en Argentine et au Brésil, on ne parle pas d'organisme génétiquement modifié.
On parle de...
Ben, on parle d'une nouvelle plante avec des nouveaux traits. On va la comparer pour différentes qualités, aussi caractéristiques agronomiques à une autre variété qu'on connaissait jusqu'ici et voir si effectivement il y a une sécurité alimentaire et un comportement agronomique souhaitable, approprié. Et dès l'instant où ces paramètres sont bons, ces plantes-là qui sont nouvelles, elles sont mises sur le marché. Donc on fait pas de distinction entre les techniques. C'est-à-dire que si cette plante-là est issue d'une sélection tout à fait conventionnelle en croisant une variété A avec une variété B, ou si c'est une sélection qui est liée à une mutagénèse physique en utilisant les rayons X comme on faisait en 1926, hein, ou gamma, eh bien, ces variétés-là, elles sont mises sur le marché de façon indistincte par rapport à une variété qui serait issue de la transgénèse. Donc c'est vraiment... proprement une définition européenne qui, évidemment, est devenue un peu absurde. On va certainement le voir dans l'émission avec les nouvelles techniques, puisque...
dont nous parlerons tout à l'heure dans une deuxième partie de l'émission. Mais ce qu'on appelle OGM, vous avez utilisé le mot, hein, ce sont des organismes modifiés par transgénèse. Oui. Qu'est-ce que c'est que la transgénèse ? Quelle est la technologie qui est apparue à la fin des années 70 ? On utilise donc pour modifier le génome d'une plante des agrobactéries.
Voilà, tout à fait. Donc ça, ça a été découvert en 1983, d'ailleurs par des Européens, hein, par des Belges et des Allemands, mais aussi des Français à l'INRA de Versailles, où on a découvert que une bactérie, en infectant une plante, pouvait transmettre son une partie de son génome. On s'est dit, mais ça, c'est fantastique, parce que c'est comme un petit train dans lequel on pourrait mettre un wagon, et le train pourrait emmener ce wagon nouveau dans la plante. Donc on peut ajouter un gène qui n'aurait pas pu venir dans le génome de la plante autrement que par cette bactérie qui finalement l'infecte.
La différence avec les croisements ou les méthodes d'ingénierie de la reproduction sexuée qui étaient pratiquées jusqu'alors, c'est que sur des organismes OGM, donc on parle de transgènes, puisqu'on ajoute des gènes qui ne sont pas les gènes de la plante, et c'est la source de toutes les inquiétudes, voilà. C'est-à-dire de créer des hybrides qui ne sont pas des hybrides que l'on trouve dans la nature.
Oui, absolument. C'est là où repose l'entière innovation par l'homme grâce à ces découverte, c'est d'aller chercher un gène qui provient d'un animal, voire d'un humain, voire d'une autre plante, que la plante en question ne pourrait jamais avoir autrement que par cet artifice qu'est la transgénèse. Donc on peut produire par une plante un vaccin ou une autre molécule thérapeutique grâce à cette transgénèse.
On peut préciser par ailleurs que ces techniques-là sont aussi utilisées chez certains animaux de laboratoire pour produire effectivement des molécules qui servent à l'industrie pharmaceutique. Elles ne sont pas utilisées exclusivement sur les plantes. Je donne quelques repères hein, comme ça chronologique rapidement. 83, premier tabac transgénique obtenu, donc vous l'évoquiez, par une équipe belge et américaine. 85, première plante transgénique qui résiste à un insecte. 87, première plante transgénique tolérante à un herbicide total. 88, première céréale transgénique. 90, première commercialisation d'une plante transgénique, ce qui nous amène doucement à 96, donc c'est pour ça qu'on parle des 20 ans, hein, 21 ans exactement, avec les premiers maïs transgéniques commercialisés déjà à l'époque par Monsanto aux États-Unis et au Canada, des maïs qui résistaient aux herbicides et aux insectes. Plusieurs choses pour parler un peu du contexte hein, du développement de ces OGM et des oppositions qui ont pu naître. En France, la culture des OGM est interdite depuis 2009. Néanmoins, il faut savoir que on trouve des OGM dans des produits transformés, dans des importations de soja, par exemple, pour nourrir le bétail, qui sont du bétail de consommation. Donc, de facto, nous consommons tous des OGM, même si la culture d'OGM en plein champ a été interdite, Michel Griffon.
Oui, c'est inévitable, puisque d'un côté, il y a les interdictions françaises, et d'un autre côté, il y a le marché international qui, lui, ne regarde pas, ou très peu. C'est-à-dire qu'il y a une législation européenne et une législation française pour limiter, mais il y a toujours des traces partout, et c'est pas la législation qui arrêtera les mouvements des produits. Donc, c'est... Il y a, comment dire, un petit peu d'absence de réflexion sur toutes ces questions-là. Ce sont des questions qui sont éminemment conflictuelles. Et puis, on n'en parle pas tous les jours non plus. On mange des OGM. Et puis, je pense, enfin, à ma connaissance, personne n'est jamais décédé d'avoir mangé un OGM.
C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui plaide pour une certaine forme d'innocuité des OGM sur la santé humaine, en tout cas. Ce sont ces 20 ans d'utilisation où, pour le moment, il n'y a pas d'études au long cours qui prouvent un effet visible, manifeste des OGM sur la santé humaine, a priori. Même s'il peut y avoir... Il y a un rapport de l'Académie américaine des sciences qui date de mai 2016 hein, qui dit qu'il n'y a pas de risques environnementaux et sanitaires des OGM plus que pour les récoltes conventionnelles, mais avec tout de même quelques réserves sur des effets subtils et à long terme sur la santé et l'environnement. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Parce que depuis 20 ans, on entend des études contradictoires, que les anti et les pro-OGM se renvoient entre guillemets à la figure. Certaines études très très impressionnantes, hein. On peut parler de celle de Gilles-Éric Séralini en 2015 avec ses rats. Vous montez les yeux au ciel, Agnès Ricroc, mais oui. C'était une étude qui a été disqualifiée par ailleurs pour avoir...
Elle a été rétractée par le journal, elle a suscité une levée de boucliers de pratiquement tout toutes les agences sanitaires internationales, d'un très grand nombre donc d'académies, y compris nos académies des sciences, pharmacie, agriculture, technologie, pharmacie en France.
Qu'est-ce que la science nous dit aujourd'hui de toutes les études qu'on a sur les dangers potentiels qui restent à long cours, 20 ans c'est finalement un temps très très faible, à long cours de la dispersion des OGM dans la nature après la culture en plein champ, etc. Ou des effets sur la santé.
Ce qu'on peut dire premièrement, c'est que l'OGM finalement est une plante qui a un luxe de précaution pour évaluer ses risques sur la santé et sur l'environnement. Je crois que à notre connaissance, il y a pas une plante qui est aussi regardée, examinée, et ça va même un peu trop loin parce que payer toutes ces études, c'est permis que par des grandes entreprises, et ça prive les petites et moyennes entreprises d'innover, et aussi évidemment les instituts publics. Donc, sur ces 20 dernières années, on n'a jamais vu donc des faits négatifs sur la santé humaine. C'est plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'on cherche à enrichir des produits pour pallier des carences pour certaines populations. Au contraire, c'est pour éviter un impact sur l'environnement, notamment en abaissant quand même l'usage des pesticides, qui sont aussi des éléments qui provoquent des gaz à effet de serre, et donc, comme on sait, sont un facteur de changement climatique.
Alors, on va voir que sur les pesticides, tout à l'heure, les résultats sont peut-être pas tout à fait à la hauteur, résultats espérés.
Si je puis me permettre. Des pratiques agricoles des agriculteurs et des agricultrices.
On va en reparler. Un mot tout de même également, Michel Griffon. Donc il y a les questions liées à la santé. Voilà, on a entendu ce que vient d'en dire Agnès Ricroc. Il y a d'autres questions, d'autres inquiétudes qui étaient levées autour des questions liées à la dispersion des semences et de la répercussion de ces OGM sur les écosystèmes alentours. Qu'en disent les différentes études qui ont été menées sur ces sujets-là?
Bien, à partir du moment où il y a l'hypothèse qu'une plante génétiquement modifiée puisse être dangereuse, dès lors qu'elle se diffuse à l'échelle de la planète, le danger devient une réalité. Mais comme il n'y a pas de réalité et que c'est simplement une hypothèse, ce qu'on condamne, c'est la multiplication des plantes génétiquement modifiées à l'échelle de la planète. Ceci étant, par exemple, en Afrique, où on a substitué du coton qui est destiné à résister à des insectes, au coton qui, lui, est attaqué par des insectes et défendu par des pesticides, les avantages pour la santé humaine sont considérables, parce qu'il est bien connu que le coton est une plante qui nécessite un grand nombre de traitements insecticides, que les populations ne respectent pas beaucoup l'utilisation des combinaisons pour limiter l'exposition aux produits qui sont, dès l'instant qu'ils sont mis dans un champ, dangereux pendant quelques temps, pour la plupart des produits. Et puis, historiquement, pendant très longtemps, on n'a jamais fait attention à la diffusion d'un certain nombre de produits phytosanitaires. On peut presque dire que les OGM de résistance aux insectes ont sauvé des vies humaines. Donc, il faut aussi le dire, en toute indépendance d'esprit, d'ailleurs.
Ça veut dire que si on vous écoute, finalement, il n'y aurait que des avantages à ces OGM. Et pourtant, comme on va le voir dans un instant, eh bien, le bilan au terme de 20 ans d'exploitation n'est pas tout à fait celui espéré par la révolution agronomique qui était promise à leur introduction dans le marché.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Il est 16h20, vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons des OGM et des 20 ans d'exploitation d'OGM, du bilan de ces 20 ans d'exploitation. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que faire le bilan des OGM, c'est toujours un exercice assez complexe, qui demande des réponses mesurées, du discernement. C'est cet exercice auquel nous allons tenter de nous livrer maintenant, avec plusieurs constats qui qui, pour le coup, ne joue pas franchement en faveur des OGM. Prenons donc point par point les trois ambitions initiales du développement de ces cultures, l'augmentation des rendements, la résistance aux parasites, aux insectes et aux herbicides, et le dégagement de marges économiques. Sur les rendements, il semble, Agnès Ricroc, avoir aujourd'hui un consensus scientifique pour dire que les productions sans OGM ont suivi quasiment la même progression, la même croissance que celle avec OGM, alors que l'ambition initiale, c'était de doubler, ni plus ni moins, la production alimentaire d'ici 2050. Qu'en dites-vous ?
Moi, ce que j'en dis, c'est que il faut pas totalement globaliser. Hein. Il faut discerner un agro-système d'un autre. Vous avez des petites exploitations et des grandes exploitations. Vous avez des agriculteurs qui peuvent se doter d'irrigation, d'autres pas. Si vous avez une plante génétiquement modifiée qui résiste à la sécheresse, du moins qui la tolère mieux, bah, c'est indéniable que vous allez gagner en pourcent de rendement. Peut-être que certaines entreprises semencières ont fait des annonces un peu démesurées pour vendre leurs produits, mais bon, ça c'est, je veux dire, du marketing. C'est déjà bien de faire 3 ou 4% de rendement en plus. C'est déjà bien de ne pas utiliser d'insecticide, parce que vous n'avez pas à payer l'insecticide, vous n'avez pas à payer la main d'œuvre. Donc, il faut voir dans quel agro-système on se trouve et quel est l'avantage par rapport à une variété type conventionnelle. C'est plutôt comparatif qu'il faut le voir et pas forcément globalement.
Mais sur ce comparatif, justement, oui. Hein, Michel Griffon, quand on regarde effectivement l'augmentation des rendements, on se rend compte que finalement, l'augmentation, l'accélération de la technicité, des rendements sur, on parle toujours évidemment d'agriculture intensive, eh bien, on obtient peu ou prou les mêmes augmentations de rendement avec des semences classiques qu'avec des semences OGM. Ça veut dire que là-dessus, cette révolution du rendement n'a pas tout à fait eu lieu.
Ben, c'est-à-dire que pour tout problème qui se présente dans la production, par exemple des attaques par des insectes, il y a différentes solutions. Il y a la plante génétiquement modifiée qui va résister aux insectes, mais il y a aussi les produits insecticides. Et puis, quelquefois, il y a des méthodes agronomiques. Si bien que quand on les met en comparaison les unes les autres, il n'y a pas généralement de forte raison qu'une plante génétiquement modifiée soit sensiblement meilleure. Ce qui est certain, c'est que se substituant à des techniques qui sont peut-être plus chères, avec des coûts d'intervention plus élevés, on peut attendre d'un certain nombre de plantes génétiquement modifiées qu'elles aient des coûts de production un peu moins élevés. Mais même ça, ce n'est pas grandement significatif.
Et on va voir justement, puisqu'on parle des coûts, vous parliez, Agnès Ricroc, de la lutte contre les parasites ou les pesticides. Là aussi, hein, on se rend compte, Science et Vie a consacré un dossier le mois dernier, que cet avantage s'érode avec le temps. Finalement, vous parliez de la diminution du nombre de pesticides. On se rend compte qu'en 20 ans, entre 1995 et 2015, les quantités de glyphosate utilisées, le glyphosate qui est le fameux Roundup commercialisé également par la firme Monsanto, dans le monde a été multiplié par 12. Que les mauvaises herbes deviennent résistantes aux pesticides et que là aussi, du coup, les OGM n'ont pas tenu les promesses annoncées. Qu'en dites-vous ?
Ça, c'est pas forcément lié à la transgénèse, à l'organisme génétiquement modifié. Dès l'instant où l'agriculteur va cultiver son champ sans rotation, hein, d'année en année, en utilisant le même type de molécules d'herbicides, c'est évidemment attendu qu'il va y avoir des adventices qui vont résister à cette molécule à herbicide. Donc on sait pertinemment qu'il faut faire des rotations, non seulement des cultures, mais aussi des molécules herbicides. Donc alors de deux choses une, soit on fait une incitation financière, c'est-à-dire que on paye les agriculteurs à faire ce type de pratiques agricoles, ou alors on les sensibilise le plus tôt possible dans leur vocation pour qu'ils aient une agriculture durable. Donc, vous avez ce phénomène-là, indépendamment de l'OGM, puisqu'on a vu cette augmentation de population de mauvaises herbes, on dit adventices, résistantes à des herbicides, bien avant l'introduction, en 1996, des premières plantes transgéniques. Donc, une variété transgénique comme une variété mutée ou une variété qui proviendrait d'un croisement classique, doit être accompagné d'une bonne pratique agricole pour éviter évidemment ce type d'augmentation de plantes qui résistent à l'herbicide. Alors le glyphosate, vous savez, est tombé dans le domaine public, donc
ça n'est plus développé uniquement par Monsanto. Ouais. Mais tout de même, pour revenir sur cet emploi des pesticides, parmi les promesses initiales, puisque c'est bien à l'aune de ces promesses initiales que nous jugeons des résultats produits par ces organismes 20 ans après, on parlait de la diminution de la consommation de pesticides, voire de la fin d'une partie des pesticides qui ne serait plus utile. Or, on constate encore une fois de plus que les doses de pesticides employées sur cette même période pendant 20 ans ont été multipliées par 12. Là aussi, on ne peut pas parler d'un franc succès tout de même, Agnès Ricroc.
Bah, attendez, il faut distinguer les herbicides des insecticides. Là, il y a une baisse en tout cas des insecticides, puisque dès lors qu'il y a des plantes qui résistent à l'insecte en fabriquant une toxine, comme nous on serait vaccinés, vous n'employez pas d'insecticides. Donc là, il y a plutôt une baisse d'insecticides dans certains agro-systèmes, dès lors que la plante se défend toute seule. D'accord ? Ce qui n'est pas le cas pour les herbicides, si c'est mal employé, encore une fois.
Michel Griffon, sur cette question de l'emploi démesuré, en tout cas toujours très fort, des pesticides type glyphosate, malgré le développement des cultures OGM.
On oublie toujours une chose dans l'histoire de la nature et de la vie, c'est que tout mute à un moment ou à un autre, et que quand une plante acquiert une défense contre, par exemple, un insecte, cet insecte va lui aussi connaître à un autre moment une mutation qui va lui permettre de reprendre son travail d'attaque. C'est la défense des cultures est quelque chose qui s'insère dans la grande lutte à l'intérieur des systèmes vivants entre les différentes formes de la vie. Si les plantes n'avaient pas elles-mêmes des éléments de défense dans leur génome, elles auraient été toutes détruites par les insectes et il n'y aurait plus d'insectes non plus. Donc en fait, c'est une guerre permanente dans laquelle les plantes génétiquement modifiées s'insèrent et donc elles ont une durée d'efficacité qui tient à la capacité de mutation de tout ce qui se passe dans son environnement. Donc les PGM ne sont pas une révolution, les plantes génétiquement modifiées ne sont pas c'est une technique nouvelle qui permet de protéger les plantes, mais avec une durée limitée.
Il y a un autre souci qui est régulièrement avancé et qui pose un problème à nombre de personnes qui sont défavorables à ces OGM, c'est évidemment les questions liées au brevetage des semences. C'est une question, on parle de mise sous tutelle des agriculteurs de la part des semenciers. Là aussi, on va voir que cette question du brevetage des semences, elle se pose dans la recherche aujourd'hui menée sur les nouvelles formes d'édition génomique sur les nouvelles plantes et sur des nouvelles méthodes, en tout cas liées, dont on va parler dans quelques minutes. Que penser de ce problème lié au brevetage du vivant qui a été un vrai nœud de ce débat lié aux OGM et de l'appropriation des semences par les semenciers finalement?
Ce que je voudrais dire, c'est qu'en Europe, il est strictement interdit de breveter une plante, une variété. La variété, elle est protégée de la contrefaçon avec un certificat d'obtention végétale, c'est depuis 1961. Donc là, on n'a pas le droit de breveter une variété en Europe.
En Europe.
Aux États-Unis ou au Canada, on peut breveter l'entièreté, la variété, et ça c'est valable pendant 20 ans. Donc c'est ces deux systèmes, j'allais dire ces deux philosophies. Ils estiment les Américains ou les Canadiens qu'il y a un retour sur investissement par le biais de la redevance que nous on n'a pas par ce certificat d'obtention végétale. Ce qui nous rapproche, c'est que effectivement, en Europe, comme aux États-Unis ou au Canada, on peut breveter des éléments du génome. C'est autorisé maintenant en Europe de breveter un gène. Et d'ailleurs, les instituts publics, comme le CNRS, l'INRA, l'INSERM, autorise les chercheurs à déposer des brevets sur ces découvertes avec une application industrielle, hein, bien entendu, puisque vous savez qu'il faut une application industrielle, ça fait partie des critères d'octroi d'un brevet.
Un mot sur cette question du brevetage du vivant, ça pose un problème tout de même, ça pose un problème éthique sur l'appartenance, décenance. Encore une fois, je le disais, et ça a souvent été critiqué, parfois à tort, mais souvent à raison, de la mise sous tutelle des agriculteurs vis-à-vis des grands groupes financiers, semenciers, pardon.
À mon sens, plus à raison qu'à tort, puisque en théorie, on établit un monopole de droit. Sur un objet. Alors, le droit des brevets, c'est la reconnaissance du droit de l'inventeur pendant une période de temps limitée, et ensuite ça revient dans le domaine public. Mais des firmes en ont fait une stratégie, et la multiplication des PGM,
des OGM,
si elle se poursuivait, si elle se généralisait, aboutirait en fait en permanence à une privatisation et à un monopole, ce qui est contraire à toutes les théories économiques libérales elles-mêmes. Donc de ce point de vue, les anti-OGM ont là un argument extrêmement puissant. Alors sur le plan éthique, c'est tout autre chose. C'est très complexe, puisque au fond, ce qui est mis en cause par les anti-OGM, c'est le fait que l'on manipule la nature. Mais j'ai un regard pour Agnès. La nature en a fait de belles et bien plus importantes encore. Et si nous sommes là aujourd'hui, si les plantes sont là, si les plantes sont capables de faire de la photosynthèse, c'est bien parce que à une époque de la vie fort ancienne, il y a eu quelque chose qui ressemble fichtrement à de la transgénèse naturelle.
De la transgénèse, peut-être pas, puisque là, la question et la critique est toujours liée au fait, non pas seulement de faire de l'ingénierie génétique, ça, de l'ingénierie génétique, on en fait quand on fait du bouturage, hein, finalement, mais c'est d'introduire dans des plantes des gènes qui appartiennent à d'autres espèces et de faire de l'hybridation. Mais un mot tout de même pour terminer sur ce bilan un peu des 20 ans, je vais citer des gens qui sont pas farouchement anti-OGM, hein. Christian Huyck de l'INRA estime qu'en l'absence d'innovation, on peut envisager que les surfaces se mettent à reculer si le service rendu s'atténue, par exemple avec les mauvaises herbes, comme on vient de l'évoquer, ou les insectes qui s'adaptent, ce dont nous parlions tout à l'heure. Le GNIS, le Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants, admet que la technique est un peu vieille et relativement imprécise. Est-ce qu'on est arrivé au bout d'une logique de recherche, d'une logique industrielle, d'une logique qui a été effectivement très soumise à controverse et qui a connu les empêchements qu'on lui connaît, en tout cas sur le territoire européen? Est-ce qu'on arrive doucement tout de même à la fin de cette page OGM, à votre avis, Agnès Ricroc?
Moi, je ne suis pas en capacité de répondre par oui ou par non. On est dans un continuum technologique. Il faut savoir que les chercheurs essayent d'avoir à leur disposition le maximum d'outils dans une boîte à outils et de pouvoir choisir le meilleur outil pour répondre à la question posée. Il faut savoir que l'ONU a dit très récemment que en 2050 nous serons presque 10 milliards de personnes.
Donc 9,8.
Oui, tout à fait, 9,8. Donc là c'est une projection qui est quand même dramatique si on trouve pas des nouvelles solutions, donc d'autres outils. Et ce, dans un changement climatique.
Mais c'est ce que vous dites là, finalement, c'est les arguments qu'on entendait exactement il y a 20 ans, en disant la population va augmenter drastiquement, les OGM sont une réponse précisément pour nourrir la planète. Or, on voit que ça n'a pas répondu totalement.
Même il y a 20 ans, j'aurais pas dit ça. j'aurais dit, c'est une des solutions, il faut pas s'en priver. Voilà, faut pas non plus nourrir trop d'espoir dans des nouvelles techniques. Elles ont un temps de maturité. On peut interroger des historiens et des philosophes des sciences dans n'importe quelle technique. D'ailleurs, il y a des temps d'innovation, d'installation, de maturité. Et puis elles sont supplantées, ces techniques, par d'autres. Voilà, donc il y aura forcément un chevauchement.
On va parler de ces nouvelles techniques tout de suite, mais j'aimerais l'avis de Michel Griffou. Est-ce que l'OGM, c'est aujourd'hui une page de l'histoire de la recherche en agronomie, une page mouvementée qui est en train de se tourner?
Oh, je crois que, comme toujours, quand il y a une innovation, on attend d'elle beaucoup trop. Par exemple, maintenant, on va avoir l'agriculture de précision, les drones, la révolution du numérique. Et c'est en train de monter dans l'opinion agricole. Et on oublie ce qu'il y avait avant. Il faut être raisonnable, il faut penser en termes de gamme de technologies. Le drame dans l'agriculture, comme dans beaucoup de domaines, c'est que chacun a une discipline technologique en tête et prétend gouverner le monde et l'innovation à partir de sa discipline technologique. Et il manque des gens qui sont spécialistes de tout et qui sont capables de peser la valeur relative de toute innovation pour répondre à chacun des problèmes qui se présentent. Et donc, il faut beaucoup de sagesse.
C'est la sagesse qui va guider la suite de cette émission, puisque nous allons parler précisément de la suite et des nouvelles recherches en ingénierie génétique autour de la culture et de l'agronomie.
La méthode scientifique, Nicolas Martin. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around. Lemon Tree de Fool's Garden à 16h37 sur France Culture. Vous pouvez nous suivre également sur Twitter en suivant le compte @laméthodefc. Nous parlons des OGM, de savoir si la page des OGM est en train de se tourner compte tenu du développement des nouvelles techniques d'ingénierie génomique. Nous en parlons avec Agnès Ricroc, qui est enseignante chercheuse en génétique et amélioration des plantes à AgroParisTech, et Michel Griffon, qui est ingénieur agronome et économiste. Alors après les OGM, il faut maintenant parler d'un nouveau cycle, les NPBT, les New Plant Breeding Techniques ou Technologies. C'est une série de pratiques et de technologies très diverses, hein, et qui permettent d'éditer beaucoup plus finement le génome, qui sont en partie controversées, mais pas toutes, on va le voir. Faut-il ou non parler de plantes ainsi éditées comme d'OGM, d'organismes génétiquement modifiés, ou est-ce une façon simplement d'accélérer les processus de mutation naturelle? On peut en tout cas dire que l'histoire ne commence pas très bien, puisque ces NPBT, en avril dernier, cette ONG ont démissionné du Haut Conseil des biotechnologies suite à un avis favorable qui refusait de classer plusieurs de ces NPBT dans les catégories OGM. Alors, quelle différence entre les NPBT et les OGM, Agnès Ricroc?
Les OGM, je vous l'ai dit, hein, c'est un objet juridique qui repose sur une technique qui s'appelle la transgenèse. Dans la définition européenne, on exclut la technique de mutagénèse. Alors, c'est quoi la mutagénèse? C'est on change une lettre par une autre, d'accord? Un gène, c'est quoi? C'est un mot. Et c'est un mot qui est composé de lettres. Il suffit de changer une lettre et on a une mutation. Bon, le législateur européen a exclu ces techniques-là. Dès lors que vous faites une mutation, ça ne peut pas tomber dans la définition d'un OGM, au sens juridique du terme. Voilà. Donc, le Haut Conseil des biotechnologies a raison de dire que les nouvelles techniques qui permettent de faire une mutation, alors là, cette fois-ci, ciblée, c'est-à-dire j'ai un mot et je veux lui changer une lettre, une mutation ciblée à un endroit très précis du génome, avec une adresse très précise, eh bien, ça peut conférer une nouvelle caractéristique. Donc vous pouvez avoir par exemple un maïs qui est enrichi avec un certain type d'amidon qui peut intéresser effectivement les industriels hein, pour faire des nouvelles colles. Vous pouvez fabriquer un champignon qui va plus brunir, donc vous évitez du gaspillage alimentaire. Donc il y a toutes sortes d'innovations rien que par cette mutation-là et qui peut justement se confondre avec une mutation qui serait arrivée par hasard.
Naturellement, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est accélérer un peu, puisque les mutations, elles se produisent naturellement, effectivement, mais sur des temps très longs, c'est provoquer un peu le sens de l'histoire naturelle, en quelque sorte.
Oui, on le provoque à dessein. On a le gène et on veut le modifier.
Il n'y a plus d'hybridation et c'est bien en ça que ces NPBT sont différentes des OGM. On ne réintroduit pas de gènes extérieurs à l'intérieur de la plante.
Exactement, on fait ça in situ. Voilà, c'est vraiment de la chirurgie génétique.
Et cette chirurgie génétique, elle est rendue possible grâce aux incontournables ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9. Nous avons déjà abondamment parlé dans cette émission. Bonjour Céline Lozen.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
CRISPR-Cas9 n'a plus aucun secret pour vous. Vous êtes allé à Versailles voir comment on peut améliorer les plantes avec ces ciseaux génétiques.
Oui, la pomme de terre en l'occurrence, avec CRISPR-Cas9, il est possible de la rendre plus résistante à un certain type de virus appelé potivirus. L'idée est d'isoler le gène d'intérêt de la pomme de terre et de le réécrire en prenant comme modèle le poivron qui lui naturellement est résistant. Il n'y aura alors plus besoin de pesticides ni de transgénèse. C'est l'espoir en tout cas de Fabien Noguet et de Anouchka Guyon qui sont actuellement en train d'éprouver cette nouvelle technique.
Chez le poivron, on a un petit variant qui permet la résistance à un petit virus. Donc l'idée là, c'est de recopier ce variant qui est apparu naturellement par mutation spontanée chez le poivron. Donc recopier ce variant chez la pomme de terre. Donc là, en l'occurrence, si on fait des statistiques un peu brutes, on peut se rendre compte que avoir ces deux mutations de manière spontanée chez la pomme de terre représenterait une attente d'à peu près 120 000 années.
Alors pour s'épargner 120 000 ans d'attente pour obtenir une mutation spontanée, comment techniquement on s'y prend pour réécrire un gène?
Donc l'outil pour nous le plus évident, c'est d'essayer de casser le gène EIF4 chez la pomme de terre, le casser à l'endroit même où on voudrait créer la modification. Et pour cela, on va donc amener le système CRISPR-Cas9 au niveau de l'endroit où on veut couper dans le gène de la pomme de terre. Et en même temps, de manière concomitante, on va apporter une matrice de réparation qui va permettre, après cassure, la réparation du gène que l'on a cassé. Et cette matrice de réparation, bien sûr, elle va contenir les deux modifications qui correspondent aux variants de la protéine de poivron, du gène du poivron. Et ainsi, on va pouvoir aller intégrer, de manière très spécifique, dans le gène EF4 de pomme de terre, cette nouvelle information et transformer le variant de pomme de terre en un variant, entre guillemets, de type poivron.
Alors en fait, les cellules végétales possèdent une paroi en plus de leur membrane. Donc la première étape, il va falloir casser cette paroi. Et pour cela, on utilise une enzyme qui s'appelle la drisélase. Donc on est parti de filaments de l'espèce modèle, donc la mousse Physcomitrella. On fait agir cette enzyme, la drisélase, qui va digérer les parois et du coup permettre la libération des cellules juste avec leur membrane. Et on obtient des cellules rondes avec une membrane qu'on appelle des protoplastes. Donc on a mis la digestion, on a mis l'enzyme dans la boîte, on a attendu un certain temps, donc à peu près une demi-heure.
Ça ressemble à un liquide vert foncé là-bas.
C'est ça. Donc là, les protoplastes sont en suspension dans du mannitol, en fait, pour garder la pression osmotique pour pas qu'ils éclatent au contact de l'eau. Et donc là, on peut les observer au microscope, et notamment pour les compter, le nombre de protoplastes que j'ai dans cette solution, afin d'ajuster après la quantité du module CRISPR qu'on ajoute pour faire la transformation.
Donc là, après, vous prélevez sur une lame.
Voilà, c'est sur ce qu'on appelle une lame de Malassé. C'est en fait une lame avec un tout petit quadrillage microscopique. Et ça permet donc de compter le nombre de cellules qu'on va pouvoir mettre en contact avec les modules CRISPR-Cas9 dans la cellule végétale, puis dans le noyau où elle doit faire son travail de nucléase.
Alors nous, ce qu'on fait au laboratoire avec la mousse, là, on met 360 000 protoplastes en contact avec 5 microgrammes d'ADN.
Donc là, en fait, on a un écran qui est relié à l'oculaire.
Donc là, tous les petits ronds que vous observez, ce sont des protoplastes. Et en fait, les petits ronds verts que vous voyez à l'intérieur de la cellule, ce sont les chloroplastes. On zoome sur l'écran et on peut observer ces petites cellules végétales remplies de chloroplastes. Donc là, on a une solution de protoplastes qui a été très bien faite, je veux dire, et qui va permettre donc une efficacité de transfection avec le système CRISPR-Cas9 assez optimale.
Et après, donc, j'ajuste mon volume de protoplastes avec cette concentration et on va passer dans un tube.
Notre objectif final, c'est de mettre 300 000 protoplastes en contact avec à peu près 10 à 15 microgrammes d'ADN. Et cet ADN, c'est du plasmide qui porte l'information de la nucléase et des ARN guides et qu'il faut faire donc rentrer dans la cellule, rentrer dans le noyau ensuite pour que cet ADN, ce plasmide soit exprimé et qu'on ait présence de l'enzyme de la nucléase Cas9 et de l'ARN guide.
Donc alors ici nous avons le module CRISPR-Cas9 sous forme d'ADN dans un tube Eppendorf, donc c'est un petit tube qui peut contenir 1,5 ml. Donc je prélève ici 10 microlitres qui correspondent à 10 microgrammes de ce module, donc que je mets dans le tube. Je vais ensuite rajouter les 300 000 protoplastes, donc qui sont dans ma suspension qui contient du mannitol, donc pour préserver la pression osmotique, donc que je mets en contact avec l'ADN délicatement. Et nous ajoutons ensuite du polyéthylène glycol en fait, qui va permettre de rendre la membrane plus perméable, en fait, de faire des petits trous temporairement dans la membrane pour que l'ADN puisse rentrer plus facilement dans la cellule. Et là, je rajoute juste la molécule qui aide à faire rentrer l'ADN dans les cellules. Et donc, on va mélanger. Et ensuite, on va provoquer un choc thermique, c'est-à-dire qu'on va les mettre dans un bain-marie à 40 degrés pour faciliter encore plus cette introduction de l'ADN.
Pendant combien de temps ?
Pendant 5 minutes. Donc le bain-marie a été réglé à 42 degrés. Au bout des 5 minutes, on considère que l'ADN est rentré dans la cellule. Et après, donc, on va laisser se reposer un petit peu parce que la membrane est un peu abîmée. Et on va attendre toute une nuit. On va les mettre à l'obscurité toute une nuit pour que les cellules reconstituent bien leur membrane et leur paroi. Et on va attendre après quelques jours à plusieurs semaines pour que les divisions aient lieu et qu'à partir d'un protoplaste, on puisse obtenir un nouvel individu. Et dans ce nouvel individu, on va ensuite examiner son ADN génomique et aller par PCR et séquençage, aller vérifier justement si l'ADN a été modifié exactement à l'endroit où on voulait le modifier.
Donc voilà, depuis 10 000 ans, l'homme fait ça. Il récupère des mutations qui peuvent présenter un intérêt. C'est souvent des mutations qui auraient probablement eu tendance à disparaître s'il n'y avait pas eu l'intervention de l'homme. Pour moi, le processus de modification via ces outils CRISPR-Cas9, c'est juste une continuité de ça.
Voilà le reportage de Céline Lozen sur l'une de ces NPBT, les New Plant Breeding Techniques ou Technologies. CRISPR-Cas9, c'est l'une d'entre elles, mais on l'a dit tout à l'heure, hein, Agnès Recroc, il y en a plusieurs. L'autre qui est très prometteuse, c'est l'ODM, c'est-à-dire la mutagénèse dirigée par oligonucléotides. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, bah, ça a été découvert en 1999, hein, donc un petit peu avant CRISPR-Cas9. L'idée, c'est de prendre en fait une série de lettres, hein, donc de nucléotides, mm-hmm. et d'aller cibler un endroit précis du génome et de faire une mutation. Et ça confère le plus souvent avec ces techniques-là une résistance à un herbicide, et notamment chez le colza, ça a été autorisé au Canada. Ça va l'être aussi chez le lin. C'est la une entreprise Cibus qui est basée à San Diego aux USA qui a développé cette technologie là.
C'est alors on va pas toutes les détailler parce qu'il y en a effectivement plusieurs, il y en a qui comme on l'a dit tout à l'heure juste force en tout cas dans le temps ce qui peut être obtenu par reproduction sexuée, il y a des certaines NPBT pardon, qui ne touchent pas d'ailleurs même au patrimoine génétique ou à l'ADN, hein.
Oui, l'agrofiltration par exemple, donc c'est une modification qui est transitoire. On utilise ça pour produire des molécules thérapeutiques chez le tabac. L'entreprise Medicago fait ça très bien en Caroline du Nord, aux États-Unis. Donc là, on touche pas le patrimoine. Mmh. C'est-à-dire que on fait faire à la plante une molécule et là, on va recueillir cette molécule qui peut être un vaccin.
Est-ce qu'on peut dire que entre CNPBT et les OGM, on est tout de même arrivé aujourd'hui à quelque chose de plus précis, de plus efficace, à une forme de degré de technicité, d'ingénierie génomique beaucoup plus ponctuelle et donc qui évite certains des aspects néfastes que pouvaient avoir les OGM, Michel Griffon.
Oui, c'est un argument important. A contrario, beaucoup d'anti-OGM s'étaient élevés contre ce qui qualifiait d'une certaine brutalité des techniques de transgénèse.
Là, le transgène, c'est dans les OGM. Hein.
Dans les OGM. Mmh, mmh. Là, on est dans la précision. Et dans la précision, on se rapproche effectivement beaucoup plus de ce que la nature fait naturellement.
C'est NPBT, donc comme vous l'avez dit, on corrige de manière extrêmement précise, extrêmement ponctuelle, Agnès Ricroc. Du coup, se repose la question que nous évoquions tout à l'heure, qui est une question centrale, qui est celle de la brevetabilité. Que deviennent ces plantes qui ont été ingénierées, c'est très très laid comme terme, sur lesquelles a eu lieu une forme d'ingénierie génétique?
Elles peuvent être mises sur le marché. Il y en a déjà qui ont été autorisées aux États-Unis. Bon, en Europe, il y a un blocage. On ne sait pas si la directive européenne va les autoriser ou pas, puisque la directive européenne, elle est devenue obsolète et elle est absurde vis-à-vis de l'évolution de ces techniques. C'est bien pour ça que depuis 2009, elle n'arrive pas à statuer.
On parlait de l'annexe 1B, hein, qui est la fameuse annexe sur laquelle qui exclut certaines techniques des normes et des obligations d'évaluation, de contrôle et de traçabilité.
Oui, parce que l'absurdité, c'est de faire une classification sur la technique et non pas sur le caractère, ce que font les autres pays, et d'où leurs innovations et des mises sur le marché. Donc, il serait temps, à mon avis, que l'Europe change de paradigme et permette à des petites start-up qui ont des idées très intéressantes pour produire des nouvelles plantes avec ces outils, comme vous l'avez dit, qui sont précis. Dès lors qu'on connaît évidemment le gène qu'on veut modifier, donc il faut connaître la séquence, hein, la lecture du génome en entier. Donc ce sont des outils qui sont du coup très démocratiques dans le sens où ils sont peu chers par rapport à des outils de la transgénèse qui sont liés à des évaluations demandées notamment en Europe qui sont extrêmement coûteuses et qui sont réservées que aux grands groupes. Donc ces outils sont peu chers, de l'ordre de 500 euros qu'on fait à façon. Donc on peut espérer que des petites et moyennes entreprises, des instituts publics en Europe puissent innover.
Et puisque vous parlez des petites start-up et justement du futur de cette recherche en ingénierie génomique, nous sommes en ligne depuis les locaux, en duplex depuis le locaux de nos camarades de France Bleu Toulouse avec notre doctorante du jour, puisque chaque mercredi nous recevons des jeunes chercheurs qui viennent nous expliquer en 4 minutes leur sujet de thèse et ce sur quoi ils travaillent. Bonjour Marianne Fenzi.
Bonjour,
vous êtes en dernière année de thèse au centre Alexandre Coiré, qui est un centre de l'EHESS, donc en duplex depuis Toulouse. Bienvenue à la recherche Montre en main, c'est à vous.
Merci pour l'invitation. L'alimentation mondiale repose en grande partie sur les plantes cultivées par les agriculteurs. Conserver la diversité génétique contenue dans ces plantes est un enjeu majeur pour l'alimentation. Dans mon travail de thèse, j'analyse les savoirs, les politiques et les pratiques de conservation de cette diversité des années 1940 jusqu'à aujourd'hui. Dans une perspective qui croise l'histoire, la sociologie des sciences et l'enquête de terrain, j'ai d'une part dépouillé les archives d'institutions internationales et d'autre part, je me suis engagée dans une enquête de terrain au Mexique à travers des entretiens auprès des différents acteurs impliqués dans la conservation du maïs, les sélectionneurs, les agriculteurs, les agronomes. Le problème de la conservation des ressources génétiques a émergé avec la modernisation agricole. Pour aborder cette question, je suis remontée aux origines de la Révolution verte avec le programme agricole que la Fondation Rockefeller lance en 1943 au Mexique. J'ai focalisé en particulier mon attention sur la sélection du maïs hybride, emblème des politiques de modernisation agricole basées sur la diffusion d'un nombre limité de variétés standardisées par des sélectionneurs professionnels. Malgré les efforts déployés, dans la grande majorité des terres destinées à la culture du maïs au Mexique, ces variétés hybrides se révèlent un échec. Au Mexique, pays d'origine du maïs, les scientifiques arrivent toutefois à rassembler au cours des années 1950 des milliers de variétés locales qui sont ainsi stockées dans les premières banques de gènes. L'intérêt pour les ressources génétiques est loin de se réduire au seul cas du Mexique. À partir des années 1960, les sélectionneurs font de l'accès aux ressources génétiques un problème public à l'échelle mondiale. Ils se mobilisent afin d'organiser la collecte et la conservation de ces matières indispensables pour leur travail d'amélioration variétale. J'ai essayé de comprendre qui sont les experts, quels sont les savoirs légitimes et disqualifiés, à travers l'étude des débats et des initiatives menées au sein des institutions internationales. J'ai analysé en particulier le développement de la controverse qui commence en 1967 entre les sélectionneurs partisans d'une approche en banque des gènes et les généticiens de populations qui défendent une conservation dans les milieux naturels, évolutives et dynamiques. Si la gestion en banque des gènes s'est finalement imposée, les deux approches coexistent et font encore débat aujourd'hui. Au-delà de ces actions institutionnelles, il s'agit également de comprendre pourquoi et comment la biodiversité cultivée est conservée sur le terrain. Le cas du Mexique est particulièrement exemplaire. Dans ce pays, plus de 70% des agriculteurs cultivant du maïs privilégient les semences locales, paysannes, qu'ils vendent et échangent librement, contribuant ainsi de façon majeure à la conservation de la diversité de cette espèce. Les semences commerciales de maïs n'arrivent pas à répondre aux nécessités des agriculteurs de façon plus efficace que leurs propres semences. Loin d'être un choix idéologique ou un attachement aux traditions, les agriculteurs mexicains choisissent les semences paysannes essentiellement par pragmatisme. Mon travail met en lumière la tension entre enjeux institutionnels et pratiques locales de la transformation de l'agriculture du XXe siècle, notamment à travers l'analyse des formes de gestion de la biodiversité cultivée. Il s'agit en particulier de souligner que celle-ci, avant d'être stockée dans des banques de gènes, est sans arrêt sélectionnée, transformée et finalement conservée grâce au travail des agriculteurs. Merci.
Merci beaucoup, Marianne Fenzi. Michel Griffon, une réaction à cette fameuse opposition entre semences industrielles et semences paysannes. Ce que vient de nous dire Mélanie Fenzi, c'est que les semences paysannes, finalement, elles sont aussi sélectionnées. Il y a aussi un travail, finalement, d'ingénierie paysanne, en quelque sorte, pour obtenir des rendements qui sont évidemment pas les mêmes. Mais votre mot là-dessus.
C'est pas étonnant que ce débat ait lieu au Mexique et sur le cas du maïs, parce que quand on va sur le terrain au Mexique et en Amérique centrale, on est stupéfait de la grande... du grand nombre de variétés, de sous-variétés, de diversité, qui s'accompagnent d'ailleurs d'une diversité culinaire. Il y a des fêtes du maïs où on a jusqu'à 30 ou 40 petits gâteaux qui sont faits à partir de variétés de maïs différents. Donc c'est quelque chose de profondément enraciné culturellement. Et par pragmatisme, comme le dit très bien la doctorante, il n'y a aucune raison que cette société se dispense de cet acquis, qui est un acquis millénaire et qui est un bien culturel en même temps.
Et c'est ce à propos de quoi vous plaidez dans votre futur livre, L'écologie intensive, qui est un manifeste pour l'agriculture écologiquement intensive et qui prend un peu, qui se veut être une vision justement dépassionnée et pragmatique des apports à la fois des cultures traditionnelles et des apports de l'ingénierie génétique dans les différents types de cultures. Me trompe-je ?
Non, vous êtes tout à fait dans la ligne de ce que je veux essayer de démontrer. Très simplement...
En un mot,
l'écologie, c'est la science des écosystèmes. Et on considère la production comme un écosystème. Et alors ça offre bien sûr une vision des choses qui est tout à fait différente de celle que l'on a eue dans la modernisation agricole du dernier demi-siècle.
Eh bien, ce sera à lire dans l'écologie intensive, votre ouvrage à paraître le 7 septembre prochain chez Buchet-Chastel, préfacé par Éric Orsenna. Merci beaucoup Michel Griffon, merci Agnès Ricroc d'avoir accepté notre invitation, merci beaucoup à Marianne Fenzi, à nos collègues de France Bleu à Toulouse, merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. En un mot, demain, journée spéciale pour le livre sur l'antenne de France Culture, et avant-dernière émission, avant la trêve estivale de La Méthode Scientifique, un plateau de luxe avec plusieurs habitués de l'émission qui vont défendre leur livre de SF favori pour vous permettre de passer l'été avec de la SF plein vos valises. Et puis vendredi, pour la dernière émission, nous recevrons le grand auteur de science-fiction, Robert Charles Wilson, qui sera avec nous en duplex depuis Toronto. Dans un instant, la série documentaire. On se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.